Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Mes révérends pères, messieurs, mes bien chers frères,
cette fête du Christ roi que nous célébrons aujourd'hui a été introduite par le pape Pie XI en 1925. Était-ce une innovation? La royauté du Christ était-elle une vérité nouvelle? Pie XI a-t-il introduit dans le calendrier liturgique une dévotion nouvelle? En fait, non. Ce n'est pas une dévotion nouvelle parce que la fête traditionnelle de la royauté du Christ est une des plus anciennes de l'Église, au moins aussi ancienne que celle de Noël. La fête traditionnelle de la royauté du Christ, c'est la fête de l'Épiphanie. Car dans l'hommage des trois rois, nous voyons l'hommage de tous les peuples et de tous les princes au roi des rois. Les mages offrent l'or à Jésus pour reconnaître sa royauté. Quelle a donc été l'intention de Pie XI en introduisant cette fête du Christ-Roi? C'est qu'un des aspects de la royauté du Christ était en train de tomber dans l'oubli. À notre époque de laïcisme et d'athéisme, il fallait et il faut rappeler ce qui autrefois était évident pour tout chrétien, à savoir que le Christ règne sur la société. Si la religion et la vie politique, si l'Église et la société civile sont distincts, ils ne sont pas séparés. Il faut savoir gré à Pie XI de l'avoir rappelé dans cette magnifique encyclique, même si tous les actes de gouvernement de son pontificat n'ont pas été à la hauteur de cette encyclique. Cette doctrine oubliée ou mal connue, il nous faut la considérer aujourd'hui. Alors nous essayerons d'en voir successivement les sources, le contenu et les conséquences pratiques pour aujourd'hui. Les sources de la royauté du Christ, c'est l'incarnation et la rédemption. Le Christ est roi parce qu'il est Dieu et homme, et le Christ est roi parce qu'il est rédempteur. Le Christ est roi parce qu'il est Dieu et homme. Parce qu'il est Dieu, il est roi. Et parce qu'il est homme, il est un roi humain. Son règne est le règne d'un homme. La nature humaine du Christ est investie de la royauté, car elle est celle d'un Dieu et donc d'un roi. La royauté du Christ n'est pas seulement la royauté de Dieu, mais elle est bel et bien la royauté d'un homme véritable, possédant un corps et une âme. Royauté d'un homme qui peut dire en toute vérité, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Car même s'il possède la puissance absolue comme Dieu, de par sa nature humaine, il peut dire qu'elle lui a été donnée. Et donc, sa royauté n'est pas seulement spirituelle, mais aussi temporelle, car l'homme vit dans le temps. L'homme n'est pas un pur esprit, et donc la royauté du Christ s'étend sur tout le champ de la vie humaine, sur la vie individuelle, personnelle, et aussi sur les vies sociales et politiques. L'homme est social, la société est connaturelle à l'homme, c'est-à-dire que l'homme est nécessairement social par nature, et donc la société aussi est soumise à la royauté du Christ. Le Christ est roi aussi parce qu'il est rédempteur. Il est rédempteur, c'est-à-dire que l'homme ne peut se sauver que par Jésus-Christ. L'homme ne peut accéder à la vie surnaturelle, à la vie éternelle que par Jésus-Christ. Il est l'unique médiateur, et donc l'homme ne peut être sauvé de la mort éternelle et délivré de son péché que par le recours à Jésus-Christ. La nature, autrement dit, la nature ne peut être guérie que par la grâce, sans la grâce, et donc sans Jésus-Christ, il est impossible de s'abstenir du péché de façon durable et sérieuse. Même en cette vie, même pour la vie d'ici-bas, l'homme a besoin de Jésus-Christ pour combattre le mal et faire le bien. Et par conséquent, la vie sociale, la vie politique elle-même, ne peut pas se passer de Jésus-Christ. C'est ce que répondait le cardinal Pie à Napoléon III. Sire, en substance, le cardinal Pie disait ceci, « Sire, je ne sais pas si le moment est venu pour Jésus-Christ de régner. Je ne suis pas un politique. Vous êtes un politique, vous me dites que le moment de son règne n'est pas venu, je ne peux pas vous répondre. Mais ce que je sais, et là je cite les paroles du cardinal Pie, le moment n'est pas venu pour Jésus-Christ de régner, alors le moment n'est pas venu pour les gouvernements de durer. Sans le Christ, la société ne peut pas durer et ne peut pas assurer le bien commun. » Ainsi donc, le Christ est roi de la société parce qu'il est Dieu et parce qu'il est rédempteur. Telle est la source de la doctrine politique de l'Église, car l'Église a une doctrine politique. L'Église n'a pas un programme politique. Elle n'a pas de solutions concrètes à proposer aux problèmes actuels. Encore moins peut-elle donner des consignes électorales. Mais elle a une doctrine, c'est-à-dire des principes fondamentaux quant à la nature et au but de la société et du gouvernement. On l'appelle en d'autres termes la doctrine sociale de l'Église. Et cette doctrine sociale de l'Église ne date pas, comme on pourrait le croire, comme parfois on le croit, cette doctrine sociale de l'Église ne date pas de Léon XIII. L'Église n'a pas entendu le XIXe siècle pour se préoccuper de la justice, de l'économie, du capitalisme, du libéralisme et du gouvernement des peuples. Toute la renaissance de la civilisation après les invasions barbares, toute l'œuvre du magistère et des théologiens, toute la construction qui a été faite par les moines et par les évêques est là pour témoigner de l'existence, de la fécondité et de la vitalité de la doctrine politique de l'Église. Doctrine qui fut vécue avant même d'être explicitée. Il nous faudrait alors exposer toute l'histoire de la chrétienté depuis l'origine, c'est-à-dire depuis la fin des persécutions jusqu'à nos jours. Ce serait toute l'histoire de l'Église. Voici la source de cette doctrine, donc. La rédemption et l'incarnation. Donc le Christ règne sur la société, sur la vie politique. Mais quelle est cette doctrine? Quel est l'enseignement politique de l'Église? Alors essayons d'en saisir quelques points essentiels concernant l'État, concernant l'autorité, concernant la famille et enfin concernant les corps intermédiaires. Quel rapport y a-t-il entre l'Église et l'État? En fait, nous l'avons déjà dit, le Christ règne sur la société. Par conséquent, l'État est soumis au règne du Christ, ce qui veut dire pratiquement que la religion catholique, qui est la religion du Christ, est la religion officielle de l'État. L'État est catholique. Les magistrats ne sont pas seulement catholiques à titre privé, ce qui du reste n'est pas absolument nécessaire, mais ils le sont dans l'exercice même de leurs fonctions. L'État ne peut pas être séparé de l'Église. Cette profession officielle de religion de la part de l'État entraîne le respect de la loi de Dieu dans les affaires publiques. Le décalogue est la charte et le fondement de l'État. Ce n'est pas la déclaration des droits de l'homme, mais c'est le décalogue qui est la loi fondamentale de l'État. Et par conséquent, l'État veille au respect de la morale naturelle. Les lois sont l'application concrète et particulière du décalogue. L'économie, le travail, la famille, la morale publique, en un mot, sont conformes aux exigences de la justice et de la loi de Dieu. L'État réprime l'immoralité et facilite la pratique du bien. C'est pourquoi l'État catholique n'admet pas la propagande immorale et antireligieuse. Il s'oppose à la propagation et à la profession publique de l'erreur, et donc éventuellement de l'hérésie et de l'infidélité. Les fausses religions et les fausses philosophies sont les ennemis publics, ennemis aussi bien de l'Église que de l'État. L'erreur n'a aucun droit. Les fausses religions n'ont aucun droit. Il n'y a pas de droit naturel à la liberté religieuse pour toutes les religions indistinctement. Seule l'Église catholique possède d'elle-même ce droit à la liberté religieuse. Et nous pourrions citer ici une foule de documents de la tradition et du magistère. Cela veut-il dire que l'État catholique exercera une persécution à l'égard d'autres religions? Eh bien, notons tout d'abord que l'intime de la conscience et la vie privée de la famille ne sont pas du ressort de l'État, et qu'il ne peut donc pas intervenir. C'est pourquoi l'Église n'a jamais admis les dragonnades de Louis XIV, pas plus que certains procédés de l'empereur Charlemagne, qui attaquaient le fort intime de la conscience ou le fort intime des familles. Mais il est vrai que la propagande et la profession publique d'hérésie ou de fausse philosophie n'a aucun droit à exister. Et si l'État catholique les tolère, c'est pour éviter un plus grand mal que serait une guerre civile ou une brisure de la société. L'État peut tolérer l'hérésie, l'État peut tolérer les fausses religions, oui, mais il les tolère comme un mal, il les tolère comme il tolère les maisons de tolérance. C'est la prudence politique ici qui intervient, ce n'est pas le droit naturel. Et si l'État protège la religion, si l'État protège l'Église, l'Église à son tour assure le bien de la société. C'est l'Église qui est le ferment de la civilisation. C'est la religion qui fonde les vertus sans lesquelles l'État ne saurait subsister. Honnêteté, piété, patriotisme, sacrifice, justice, tout cela en définitive est fondé sur le Christ et sur l'Église. L'équité des magistrats, la fidélité des soldats, l'entraide et la solidarité entre les citoyens et les citoyens, voilà ce que l'Église apporte à l'État. Nos patries, nous pouvons le constater historiquement, ont été faites par les saints. Saint Rémy, Saint Jeanne d'Arc, Saint Nicolas de Flux, Saint Étienne de Hongrie. L'État et l'Église, s'ils sont distincts, ne sont pas séparés. Et la première victime de la séparation et de la laïcité, ce sera l'État. C'est l'Église qui est à l'origine de la civilisation. C'est l'Église qui est à l'origine des plus beaux fleurons de la civilisation que sont les cathédrales et les universités. Et puis nous pourrions passer en revue tous les arts, et la musique en particulier. L'autorité aussi repose sur l'Église. L'autorité repose sur l'Église. Non pas que le clergé ait à exercer une autorité politique. Catholique ne veut pas dire cléricale. Et le clergé est en général plutôt incompétent en pareille matière, sauf exception. mais c'est l'Église qui donne à l'autorité son caractère sacré. Car l'autorité, même l'autorité civile, est exercée au nom de Dieu. Non est potestas nisi adeo, dit saint Paul. Il n'y a pas de puissance qui ne vienne de Dieu, qui ne vienne pas de Dieu. L'autorité, celle du prince comme celle du père de famille, est sacrée. Et c'est ce que l'Église a toujours reconnu. Nous en voyons le témoignage par l'onction du sacre royal. Nous le voyons aussi dans les cérémonies religieuses qui accompagnaient la réunion des Landsgemeinde dans la Suisse primitive. L'Église rend sacrée et légitime l'autorité. Le pouvoir est de droit divin. Le pouvoir est de droit divin, que ce pouvoir soit monarchique, aristocratique ou démocratique. Il s'exerce toujours au nom de Dieu, toujours au nom du Dieu Tout-Puissant que l'Église représente. Et il faut donc se féliciter que certains pays, dont en particulier la Confédération helvétique, aient leur constitution qui commence par ces mots, au nom du Dieu Tout-Puissant. Ainsi donc, même en démocratie, le pouvoir est sacré. C'est pourquoi, si le choix des magistrats et des programmes politiques peut être objet d'élection, et ceci ne s'oppose en rien à la doctrine de l'Église, la doctrine politique elle-même, la morale et la religion ne peuvent pas être objet d'élection. La démocratie telle que l'Église l'accepte, c'est celle qui reconnaît la royauté du Christ, la souveraineté du Christ. Et si donc l'unité doctrinale d'un pays est insuffisante, alors la démocratie devient un fléau. Car ce ne sont plus les hommes et les programmes qui sont élus, ce qui serait tout à fait normal, mais c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est mis au rang des faux prophètes, des fausses doctrines. La démocratie peut être sacrée si elle est catholique, sinon elle est perversité. État, autorité. La famille. La famille est le siège de la première autorité, celle qui est présupposée à toute autre autorité sociale et qu'aucune ne peut supprimer, l'autorité du père de famille. L'État protège et soutient l'autorité familiale. Il doit lui laisser les moyens de vivre et de s'épanouir. La liberté de la famille. Et c'est sur la liberté de la famille, sur les droits de la famille que se fonde la propriété familiale, la législation du travail, la législation économique. Économie veut dire étymologiquement la loi de la maison. Autrement dit, l'économie est pour les familles, elle n'est pas pour la puissance des individus, elle n'est pas pour la puissance de l'État, elle n'est pas pour la puissance des sociétés multinationales. Et puis enfin, entre la famille et l'État, il existe une foule, un tissu complexe et varié de sociétés intermédiaires. Ce sont les entreprises, les métiers, les professions, les communes, les provinces, les cantons. Toutes ces sociétés ont des noms divers selon les circonstances historiques et géographiques, mais peu importe. Ce sont elles qui constituent toute la vie quasi biologique du corps social. Ce ne sont pas des subdivisions administratives, mais chacune est souveraine en son domaine. La société catholique, la cité catholique, est l'inverse de l'État moderne centralisateur où l'individu n'est qu'un élément. La société catholique est un organisme vivant composé de multiples cellules et unies dans l'État par l'Église. C'est pourquoi Saint Pie X, dans sa lettre Notre Charge Apostolique, lettre qui condamnait le Sillon, disait ceci: « On ne bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l'a bâtie. On n'édifiera pas la société si l'Église n'en jette les bases et ne dirige pas les travaux. » Non, la civilisation n'est pas à inventer, ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est, c'est la civilisation chrétienne, c'est la cité catholique. Il ne s'agit que de l'instaurer et la restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins, contre les attaques toujours renaissantes de l'utopie malsaine, de la révolte et de l'impiété. Omnia instaurare in Christo. Voilà comment parlait Saint Pie X au début de ce siècle. Mais nous nous posons tout de suite une question. Comment ? Comment opérer cette instauration, cette restauration ? La tentation est forte, bien sûr, aujourd'hui, de considérer cette doctrine comme un pieux rêve dépassé, un idéal utopique. C'est impossible, diront certains, disent beaucoup de catholiques. L'Église doit abandonner ses prétentions. Elle doit se contenter d'une humble place dans le cadre de la démocratie libérale ou socialiste. Elle doit se mettre au rang des autres religions. Elle doit se contenter d'un siège ou d'un strapontin dans ce qui serait comme une union des religions. Et bien plus, non seulement l'Église doit se contenter d'une place secondaire, mais on fait entendre à ses oreilles cette tentation que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a entendue pendant le désert, la troisième tentation du désert. Omnia tibi dabo si cadens adora virisme. Je te donnerai tout cela si tombant à mes pieds tu m'adores. Je te donnerai tout cela, je te ferai respecter et admirer, ô Église, je t'apporterai l'hommage des peuples, ô Église, moi la démocratie, moi la révolution, si cadens adora virisme. Si tu t'abaisses et si tu m'adores, c'est le fameux rapprochement blasphématoire de l'Évangile et de la Révolution. Vade Satana. Vade Satana. Nous ne trahirons pas l'Église, nous ne trahirons pas le Christ. Nous refusons cette apostasie, nous refusons cette trahison, trahison de l'Église et trahison de nos patries. Car nous savons que le salut de nos patries passe par la rédemption, passe par le Christ. Cette doctrine du Christ roi, nous la tenons et nous la prêchons. Et nous savons que la vérité est forte par elle-même et qu'il n'y aura pas d'autre solution au salut de la société que la restauration de la chrétienté. Et que faire concrètement alors, aujourd'hui ? Eh bien, d'abord prier. Prier parce que nous savons que tous les actes humains dépendent en définitive de Dieu. Prier donc, prier Notre-Dame du Rosaire, prier la Vierge de Lépante. Car nous ne devons pas oublier que ce qui est vrai de l'action politique, que ce qui est vrai de l'action apostolique, ce qui est vrai de l'action apostolique est aussi vrai de l'action politique, à savoir qu'elle doit être le fruit de la vie intérieure. Une action politique qui n'est pas fondée sur la vie intérieure est vouée au départ à l'échec. Prier, mais agir également. La piété est utile à tout, mais elle n'est pas suffisante. On dit bien parfois que le rosaire est un fusil à 50 coups. Sans doute. Mais je doute fort que nos amis du Liban se contentent de ce fusil-là. Alors que faire ? Eh bien, se souvenir que le tente ne se prend pas, mais il se reçoit. Or, il faut bien avouer qu'aujourd'hui, les catholiques n'ont pas parmi eux suffisamment d'hommes capables de s'imposer par leurs compétences doctrinales, professionnelles, économiques et politiques. La piété ne suffit pas. La première tâche sera donc pour nous de former des élites. De former des élites qui le soient non seulement par la piété, qui le soient d'abord par la piété sans doute, mais non seulement par la piété, mais aussi par leur compétence. Compétence en premier lieu dans leur devoir d'État, et puis compétence doctrinale, compétence dans l'aptitude au gouvernement. Alors ces élites pourront un jour, peut-être pas si éloignées, assumer des responsabilités qu'on sera trop heureux de leur confier quand il deviendra évident qu'ils seront les seuls, par le Christ et par la doctrine sociale de l'Église, à pouvoir sauver la société du désastre. Élite qu'il faut former, que ce soit dans les mouvements de jeunesse ou que ce soit dans des cercles de chefs de famille. Que des chefs de famille se réunissent pour étudier la doctrine de l'Église et pour se concerter sur la situation politique de leur pays. Ce sont là des réalisations concrètes qui porteront de fruits dans l'avenir. Et Pie XII n'a fait autre chose pendant tout son temps pontificat que d'appeler à la constitution de ces cercles de chefs de famille. Se souvenir aussi que l'action requiert de bannir toute attitude de sectarisme. Pour cette restauration de la chrétienté, nous devons pouvoir compter sur tous les hommes de bonne volonté. N'oublions pas que certains agnostiques ont plus fait pour la royauté du Christ que certaines pieuses personnes. En ce monde, ici-bas, rien n'est absolument pur, à part la vie intérieure. En ce monde, rien n'est absolument pur, rien n'est absolument saint. À ne vouloir que la perfection, surtout en politique, on se condamne au sectarisme, à l'isolement et à l'échec. La cité médiévale s'unissait dans la construction des cathédrales. Aujourd'hui, ce n'est pas une cathédrale de pierre qu'il faut construire, parce qu'il faut d'abord construire la cathédrale politique, avant de construire la cathédrale de pierre. Puisse-t-il y avoir en nous cette énergie des grands bâtisseurs, cette force, cette charité en un mot, qui est le principe de la divinisation du monde. Charité. Charité personnelle sans doute, mais aussi charité politique. Oui, charité politique, le mot est des souverains pontifes eux-mêmes. Charité politique qui fera de la cité terrestre la préparation de la cité céleste, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes révérends pères, messieurs, mes bien chers frères, le jour de la Pentecôte, nous célébrions, il y a deux semaines,
La mission du Saint-Esprit sur les apôtres. Le Christ est monté au ciel et il a envoyé son Esprit. Et cette mission du Saint-Esprit, c'est la fondation de l'Église. C'est la fondation de l'Église, c'est même l'Église. Parce que l'Église remplace le Christ sur terre. L'Église assume et accomplit sur terre la mission du Christ. C'est pourquoi la Sainte Liturgie ne nous fait plus vivre la mission, les événements historiques de la vie du Christ. Mais elle nous fait entrer dans le mystère de l'Église. Elle nous révèle le mystère de l'Église, elle nous décrit la vie de l'Église. Tâche immense, mystère aux multiples facettes, que la liturgie des dimanches et plus spécialement les évangiles vont nous exposer. Car pour cela, pour exposer ce mystère de l'Église, nous ne pourrions pas trouver quelque chose de plus profond, de plus complet que l'enseignement du Maître lui-même, l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, et plus spécialement ses paraboles. Ces paraboles sont riches de telle sorte qu'on ne peut pas prétendre les épuiser en quelques paroles. Essayons de comprendre celles d'aujourd'hui, ou du moins d'en expliquer quelques aspects. Homo quidam fecit cenam maniam. Un homme fit un grand souper. La vie de l'Église peut se comprendre ainsi. Un homme fit un grand souper et convia beaucoup de gens. Cet homme, bien sûr, c'est Dieu le Père. Ce souper, c'est celui de la vie éternelle. Et cette invitation, c'est celle que l'Église adresse à tous les hommes. Pourquoi représenter le bonheur éternel? Pourquoi représenter le paradis, en un mot, par un souper? Pourquoi un souper? Pourquoi un festin? Ici-bas, on invite des parents, des amis, des connaissances à un souper. Pourquoi? Pour fêter ensemble un événement heureux qui est survenu. Pour fêter un baptême, un mariage, un anniversaire, un succès, un examen, une joie quelconque. Il s'agit donc avant tout de communiquer une joie, d'entraîner les autres dans un bonheur que l'on possède. C'est l'occasion, en quelque sorte, d'ouvrir le cercle de la famille, d'agrandir le groupe ou la société qui se réunit, quelle que soit cette société. Le bonheur, l'événement, le succès, le simple souvenir, la joie de se trouver ensemble est ainsi communiquée à l'extérieur et elle entraîne d'autres dans l'amitié. Eh bien, ceci correspond tout à fait au bonheur éternel. Parce qu'en effet, la famille trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est parfaitement heureuse. Et son bonheur, sa vie, la vie de la Trinité, c'est précisément une communication permanente et éternelle. La vie de la Sainte Trinité, c'est une communication du Père vers le Fils, du Père et du Fils vers le Saint-Esprit. Les personnes se donnent sans cesse l'une à l'autre. Et bien plus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont qu'une communication, ne sont qu'un don permanent d'elles-mêmes. Il n'y a même pas, comme en nous, de distinction entre le don et celui qui donne. Mais chaque personne est un pur don d'elle-même. De sorte que la vie trinitaire est une communication, un don permanent, une circulation permanente. Et l'invitation au banquet veut dire que nous sommes invités à entrer dans cette famille trinitaire, à entrer dans le cercle de la Trinité, à participer à la vie trinitaire. Nous ne sommes pas seulement appelés à voir la Trinité, le mot est trop faible. Nous sommes invités à vivre aussi de cette communication permanente, à entrer dans cette circulation immobile et éternelle des trois personnes. L'invitation au festin, c'est l'ouverture du cercle trinitaire à l'humanité rachetée. Et nous comprenons alors que si l'amour est ici-bas source de bonheur, si l'amour conjugal ou l'amitié font ici-bas notre bonheur, eh bien, entrer dans l'amitié et dans l'intimité des trois personnes dépasse infiniment toute amitié terrestre. Nous pouvons voir dans l'amitié et dans l'amour une trace, une ombre de ce que sera la vie éternelle. Le festin, c'est aussi, bien sûr, la nourriture. Le fait de consommer ensemble des mets choisis et raffinés. Et là encore, le bonheur éternel ressemble au festin terrestre. Parce que la nourriture céleste, c'est Dieu lui-même. Cibabit illum pane vitae et intellectus. Il le nourrira du pain de vie et d'intelligence. Il s'agit bien sûr non pas du paradis musulman, mais il s'agit d'une nourriture spirituelle, non pas charnelle. Pourquoi ? Parce que se nourrir, c'est s'assimiler quelque chose, c'est grandir de la substance d'autre chose. On dit bien du reste, ici-bas, que notre intelligence se nourrit de science. Lorsque notre intelligence contemple les choses de la nature, lorsqu'elle perce les secrets de la nature, lorsqu'elle découvre le mystère des êtres, lorsqu'elle s'applique aux vérités sublimes, nous disons bien, alors, par métaphore, que l'intelligence se nourrit. L'intelligence se nourrit parce qu'elle assimile les choses spirituellement. Et ainsi, l'intelligence peut se dilater aux dimensions de l'univers. L'étude est pénible, ardue parfois, mais elle est ici-bas notre perfection naturelle. L'intelligence qui apprend, qui découvre, c'est l'intelligence qui vit, c'est l'intelligence qui grandit, c'est l'intelligence qui se nourrit. Or, le bonheur éternel, le festin éternel, c'est la vision de Dieu. C'est l'intelligence qui se nourrit de Dieu. Hec est vita eterna, ut coniuscante solum Deum verum. Telle est la vie éternelle, c'est de vous connaître, vous le seul vrai Dieu. Et c'est ainsi que naît la joie dans la béatitude éternelle. Gustate et videte quoniam suavis est dominus. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Il ne s'agira plus alors de la connaissance obscure de la foi, mais de la vision de Dieu face à face. Nous le verrons tel qu'il est. Et alors on peut dire que dans cette vision béatifique, l'intelligence se remplit de Dieu, s'assimile à Dieu. Dans la vision béatifique, dans la vie éternelle, au paradis, l'intelligence est transformée par la lumière de gloire et elle voit Dieu sans intermédiaire. La vision face à face de Dieu n'est pas conceptuelle. Ce que l'on peut exprimer d'une manière moins exacte, mais plus facile à comprendre, que l'intelligence s'ouvre sur Dieu, qu'elle se dilate en Dieu, qu'elle se plonge dans la divinité. Il ne s'agit plus de raisonner, ni de former des concepts ou des idées, mais il s'agit de se laisser envahir par Dieu lui-même. Dieu lui-même qui prend possession et qui habite dans l'âme, non plus seulement par sa grâce, mais par lui-même, par ses trois personnes. Ce qui satisfait le bienheureux, c'est qu'il lui donne un bonheur et une joie infiniment supérieure à toutes les joies terrestres, à tout ce que peut donner la contemplation de la beauté des créatures. S'il nous est arrivé de grandes joies dans la contemplation d'un paysage, dans la contemplation d'une œuvre d'art, dans l'admiration d'une personne, alors nous pouvons nous faire une idée, avoir quelques pressentiments de la joie du ciel, où l'on contemple celui qui contient et qui est éminemment toute beauté, qui est la beauté même. Tout cela, bien sûr, toutes ces choses spirituelles sont bien difficiles. Elles semblent bien éloignées, elles semblent irréelles, inaccessibles. Il y a cette différence, nous disait Saint Grégoire aux matines de cette nuit, il y a cette différence entre les délices du corps et celles du cœur, que les délices du corps allument un grand désir lorsqu'elles sont absentes. Mais quand on les possède, on tombe dans le dégoût, l'ennui, par la saturation. Au contraire, les délices spirituelles, lorsqu'on ne les possède pas, les délices spirituelles repoussent, dégoûtent, ennuient. Mais quand on les possède, alors on les désire de plus en plus. Et voilà pourquoi ceux qui sont gavés des richesses du monde ne répondent pas à l'invitation. Ceux qui se satisfont des biens terrestres et des amitiés terrestres ne répondent pas à l'invitation. Ils ne sont pas hostiles à l'homme qui les invite. L'Évangile ne nous donne pas de traces de haine ou d'hostilité envers le père de famille qui invite. Non, mais c'est l'indifférence. Satisfaits et engoncés dans les joies de ce monde, ils sont insensibles à l'invitation aux choses spirituelles. Et alors ils s'excusent. Alors nous nous excusons. Car nous non plus, avouons-le, nous n'avons pas véritablement répondu à cette invitation. Nous voulons bien du banquet céleste, mais nous nous y rendons forcés et le plus tard possible. Nous préférerions rester en ce monde, perpétuellement jouissant de notre confort, de nos amitiés, de nos occupations, et de nos vacances. Nous reprocherions presque à Dieu de nous appeler ailleurs. Nous voudrions en somme un paradis terrestre. Et alors nous nous révoltons devant la souffrance et la mort qui sont des appels aux choses spirituelles. Voilà la triste réalité. Il faut le reconnaître, la vie mystique et la sainteté ne nous intéressent pas. C'est la réussite professionnelle, ce sont les vacances, ce sont nos amitiés diverses qui nous absorbent. Malheur aux riches, malheur à ceux qui sont satisfaits du monde. Alors, devant cette réponse, le père de famille appelle les pauvres et les infirmes. Il appelle ceux qui sont méprisés, négligés, oubliés. Ceux-mêmes que la misère spirituelle ou matérielle aura réduit au désespoir et peut-être même au péché, mais dont le cœur ne sera pas éteint, ceux-là même Dieu les appellera. Et le Père envoie ses missionnaires partout. C'est ce que veut dire l'Évangile. Exit cito in platea sed vicos civitati. Sors immédiatement sur les places et dans les rues de la ville. Exit in vias et sepes. Sur les routes et sur les chemins. Les missionnaires, les vrais missionnaires, ne se contentent pas de demeurer dans un milieu bien-pensant, dans des sacristies, dans des chapelles, dans des circuits fermés. Mais partout où les âmes peuvent les entendre, ils entrent, sans préjugés, sans mépris, sans sectarisme, sans cet esprit pharisaïque qui peut nous conduire à nous satisfaire du petit nombre, alors que Dieu appelle le grand nombre. Et ce grand nombre pourra peut-être se trouver là où nous nous attendons le moins. Bien des premiers seront des derniers, et bien des derniers seront des premiers. On demandait une fois à saint Dominique pourquoi il s'était installé en plein pays hérétique. Et il répondit « Dans le diocèse de Toulouse, je rencontre beaucoup de gens qui m'honorent. Tandis à Carcassonne, tout le monde m'est contraire. » Alors saint Dominique s'est installé dans le diocèse de Carcassonne. La vérité doit pénétrer partout. Et c'est à nous de la faire rayonner, de la prêcher. C'est à tous les chrétiens confirmés de faire entendre cette voix du père de famille. Le caractère de la confirmation est donné pour cela, pour le témoignage public de la foi. On ne peut pas refuser l'apostolat, on ne peut pas refuser de rayonner publiquement la foi, qui qu'on soit, sans être infidèle aux grâces de la confirmation. L'invitation du Père doit pénétrer partout, dans toute la cité, dans les collèges, les écoles, les universités, dans les entreprises et dans toutes les familles, partout. Et nous aurons des comptes à rendre sur les grâces de cette confirmation que nous aurons négligées, que nous aurons gaspillées. Exi in vias et sepes. Et compele intrare. Compele intrare. Mot difficile. Oblige à entrer. Il ne s'agit pas, bien sûr, de forcer et d'obliger contre la liberté, parce que la conversion doit être libre. Elle ne peut pas être contrainte. Mais il s'agit d'obliger au sens où on oblige quelqu'un à accepter une invitation. Au sens où l'on construit toutes les conditions extérieures pour faciliter la réponse à l'invitation. Et c'est là qu'intervient la société catholique. Il s'agit aussi de séduire, d'attirer, de déployer toute une énergie et tous les artifices convenables pour attirer. La vérité est dure, c'est vrai. Mais la vérité aussi intégralement présentée est séduisante. La vérité catholique est la solution à tous les problèmes. L'Église, la doctrine de l'Église répond à toutes les interrogations, à toutes les perplexités du monde moderne. Nous le constatons bien, les idéologies sont en faillite intellectuelle et économique. Et c'est nous qui avons les solutions. Et le pire, c'est que ces solutions, nous ne les connaissons même pas. Être missionnaire, cela suppose de connaître la doctrine. Mais de la connaître à fond et d'en connaître toutes les conséquences, toutes les virtualités, toutes les richesses. Et le catéchisme pour cela, le simple catéchisme ne suffit pas. Il faut beaucoup plus. Être missionnaire suppose d'étudier la doctrine, toute la doctrine. Voilà ce que l'on peut tirer, je pense, de cette parabole. On pourrait dire certainement beaucoup de choses. Nous nous limiterons à dire donc que la vie de l'Église, c'est de faire entendre l'appel, l'invitation. La vie de l'Église, c'est de révéler, de faire connaître que nous sommes invités à entrer dans l'intimité de la Sainte Trinité, que nous sommes invités à entrer dans la vie de la Trinité, à nourrir notre intelligence par la vision de Dieu, que nous sommes invités à entrer en Dieu. Cette invitation est propagée par l'Église et la confirmation fait de nous des membres actifs de l'Église. Il ne s'agit donc plus seulement pour nous de nous rendre à l'invitation. Il faut faire plus. Il faut être des serviteurs du père de famille et il faut inviter à notre tour. Et ainsi, notre vie est un élan permanent et sans repos. Notre apostolat procède de la vie trinitaire. Et ainsi, la créature procède de la Trinité et par l'Église, elle revient dans la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers amis, mes bien chers frères, l'Évangile d'aujourd'hui nous raconte deux miracles opérés par notre Seigneur. Comprenons bien que ces récits n'ont pas premièrement un intérêt historique dans la Sainte Liturgie, mais que l'Église nous les transmet parce qu'ils contiennent les mystères de notre Sainte Foi. Alors ici, nous essayerons de découvrir, dans le premier d'entre eux, dans le récit du miracle de l'Hémorroïs, un aspect du mystère du Christ, du mystère du Verbe incarné, et puis en conséquence, pour nous aujourd'hui, le même aspect correspondant du mystère de l'Église. Notons bien que pas un détail n'est inutile dans le Saint-Évangile. Tout ce que l'Esprit-Saint a inspiré à l'écrivain sacré est pour notre instruction et doit nous faire entrer dans le mystère du Christ et de l'Église. C'est pourquoi nous compléterons l'Évangile d'aujourd'hui par le lieu parallèle de Saint-Marc. Ainsi donc, voici une femme, atteinte d'un flux de sang. Et Saint-Marc précise, ce n'est pas dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est dans l'Évangile de Saint-Marc, qu'elle avait passé 12 ans à souffrir de plusieurs médecins, comme Pluribus Medicis, et qu'elle y avait dépensé tout son bien, et qu'elle n'en s'était trouvée que plus mal. Alors, un seul espoir, c'était Jésus de Nazareth. Aller lui demander de la guérir. Mais comment faire? Il n'était pas possible de demander ce miracle en public, parce que cette maladie la rendait impure. Et selon la loi juive, selon la loi de l'Ancien Testament, cette femme devait vivre à l'écart de la ville, à l'écart de la foule. Elle devait se tenir en dehors des autres. Alors elle ne pouvait pas demander publiquement. Comment faire? La foi lui inspire cette pensée. Toucher le vêtement du Christ. Et accessit retro, et tetigit fimbriam vestimenti eius. Alors elle s'approche, et elle touche la frange de son vêtement, et le miracle se produit. Alors Jésus demande, qui m'a touché? Question qui paraît stupide, à cause de la foule qui est tout autour, et les disciples ne se gênent pas pour le dire. Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais l'Évangile nous précise bien la question de Jésus. Jésus ne parle pas de ceux qui le compriment dans la foule, bien sûr, mais il a senti en lui-même qu'une force, qu'une vertu était sortie de lui. Et alors il demande, qui a fait cet acte de le toucher pour être guéri? Nous voyons par là que ce miracle est bien différent des autres, bien différent de beaucoup d'autres, du moins. Notre Seigneur n'est pas intervenu de sa propre volonté, de sa propre initiative, pour commander à la maladie, comme il l'a pu faire dans d'autres circonstances. Il n'a pas décidé avant d'accorder un bienfait. Le miracle est venu par un simple contact, par un simple toucher qu'il n'avait pas prévu. Sans qu'il fasse un acte spécial, son corps a opéré une guérison. Une force, une vertu, nous dit l'Évangile, en est sortie par son vêtement, par la frange de ce vêtement. Une vertu est sortie pour opérer une guérison dans l'intérieur du corps de la femme. L'Évangile est explicite là-dessus. In semet ipso cognoscens virtutem qui exierat de illo. Connaissant en lui-même une vertu qui était sortie de lui. Et un autre évangile, à propos d'une autre occasion, nous dit virtus de illo exhibat et sanabat omnes. Une vertu, une force sortait de lui et les guérissait tous. Ainsi donc, le corps de notre Seigneur possédait par lui-même une vertu, une force, une puissance qui guérissait. Alors la femme se montre et elle déclare toute la vérité. Et le Christ lui répond, confide filia, fides tua, te salvam fecit. Faut-il comprendre que par cette seule vertu de foi, la femme a été guérie? Faut-il comprendre que sa foi a suffi pour la guérison? Non pas. Sa foi a été le point de départ. Mais la guérison a été opérée par le contact physique avec le vêtement du Christ. Cette foi aurait été vaine si elle n'avait abouti à l'acte concret, toucher le Christ, toucher le vêtement du Christ. C'est bien par ce vêtement qu'elle a été guérie. Mais c'est par sa foi qu'elle s'est approchée et qu'elle a osé toucher le vêtement. La foi l'a donc sauvée, mais comme principe. Il a fallu en plus cette démarche concrète et physique vers le Christ. Eh bien, si l'Église nous transmet aujourd'hui ce récit, c'est qu'il est le signe et le symbole d'une réalité mystérieuse, d'une réalité plus profonde. Car le Christ n'est pas venu premièrement pour faire des miracles. Le Christ n'est pas un thaumaturge, il n'est pas venu guérir les corps, mais il est venu guérir les âmes et toute la nature humaine. Le Christ n'est pas venu pour quelques années pour subvenir aux besoins des milliers de Juifs, ses contemporains, mais le Christ est venu pour toute l'humanité, et donc il est présent dans toute l'histoire, et donc il est présent aujourd'hui. Le Christ est donc présent aujourd'hui et agit aujourd'hui même pour guérir nos âmes et leur donner la vie. Après être monté au ciel, il a envoyé l'Esprit Saint à l'Église qu'il a fondée. Le Christ présent agissant aujourd'hui, c'est l'Église. Ce que le Christ a fait dans sa vie terrestre, l'Église l'accomplit jusqu'à la fin du monde. Et ces dimanches, en ornement vert, ces dimanches qui suivent l'octave de la Pentecôte, célèbre précisément ce mystère de l'Église. Auparavant, la liturgie célèbre le mystère du Christ lui-même, dans sa vie historique, son avènement, sa passion. Après, la liturgie célèbre le mystère de l'Église. Et les évangiles de ces dimanches en vers nous révèlent précisément des aspects du mystère de l'Église. Eh bien, en cette femme, nous pouvons nous voir nous-mêmes. Nous pouvons voir la nature humaine, blessée par le péché. Nature humaine découragée par son existence, désespérée par le malheur et la médiocrité de ce monde. Nature humaine immergée dans son péché. Et de fait, nos contemporains reflètent particulièrement de plus en plus cet état, allant de ci, de là, vers les doctrines et les religions les plus diverses. Et dans ces fausses médecines, leur état ne fait qu'empirer, parce qu'il n'est qu'un seul sauveur, Jésus-Christ. Nec enim aliud nomen est sub cielo datum hominibus, in quo portiat nos salvos fieri. Il n'est pas d'autre nom donné sous le ciel aux hommes par lequel ils puissent être sauvés. Et ceci vaut aussi bien pour les sociétés que pour les individus. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ et donc qu'en l'Église. Pas de salut hors de l'Église, comme il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Et ce salut commence par la foi. Foi en Jésus-Christ et foi en l'Église. Sine fine, impossibile est placere Deo. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais la foi à elle seule ne suffit pas. La foi qui sauve, ce n'est pas la foi dans la seule divinité du Christ, ce n'est pas la foi dans la seule puissance du Christ. La foi qui sauve, c'est la foi en l'action même de Jésus-Christ dans son Église et par son Église. La foi qui sauve, c'est celle qui nous fait accomplir des actes concrets par lesquels nous touchons l'humanité du Christ. Contre Luther, cet évangile nous montre que notre âme peut être guérie en ce monde et que cette guérison ne s'opère pas par la seule foi. Il ne suffit pas de croire. Il faut approcher Jésus. Il faut toucher son vêtement. Il faut avoir recours aux choses sensibles dans lesquelles il est présent. Il faut toucher physiquement ces choses sensibles, ces symboles qui sont aujourd'hui dans l'Église, la frange du vêtement de notre Seigneur. Le vêtement du Christ aujourd'hui, ce sont toutes ces choses sensibles, tous ces symboles sacrés que l'Église utilise dans sa liturgie. Le Christ est Dieu et homme. Sa religion n'est pas seulement spirituelle, mais aussi corporelle. L'Église, comme le Christ, a un vêtement qu'il faut toucher. Et la vertu, la force spirituelle du Christ passe par ces choses sensibles. La Sainte Liturgie, qui comprend sacrements et sacramentaux, contient la grâce, contient la vie du Christ. La simple foi ne suffit pas. Elle doit nous conduire à pratiquer la liturgie, à recevoir les sacrements par lesquels le Christ nous guérit et nous sauve. Alors nous pouvons tirer de cet évangile quelques conséquences pratiques. Comprenons que toutes les cérémonies liturgiques constituent le vêtement du Christ. Et de même que l'on distingue dans un vêtement plusieurs parties cousues ensemble, la liturgie comporte diverses parties plus ou moins essentielles, plus ou moins efficaces. Mais toutes les cérémonies et toute la liturgie participent à la puissance du Christ. Rien ne peut être négligé. Le sacrement contient un noyau essentiel, mais toute la cérémonie, tout le symbole sacramentel constitue une partie du vêtement du Christ. Considérant la grâce qui est donnée, nous risquons d'oublier le sacrement, c'est-à-dire le symbole sensible qui contient la grâce. Nous devons considérer et accomplir toute cérémonie sacrée avec vénération et perfection. Pas seulement ce qui est strictement nécessaire à la validité. Et ceci, d'ailleurs, vaut aussi bien pour le clergé, pour les ministres, que pour les fidèles. Tous doivent aimer et connaître la liturgie. Gardons-nous de l'esprit fonctionnaire. Ne soyons pas des fonctionnaires du culte qui accomplissent des rites sans âme et qui négligent le symbole sacramentel dans toute son amplitude. Là se trouve la grandeur du sacerdoce. Le prêtre lui-même fait partie intégrante de la liturgie. Il appartient lui-même à ce vêtement qui recouvre la tunique sans couture dont le Christ s'est revêtu. Le prêtre possède ce pouvoir immense de faire vivre, de guérir les âmes. Attention, on dit que « assueta vilescunt », c'est-à-dire que ce qui est habituel finit par perdre sa valeur, finit par ennuyer et finit par être négligé. Puissions-nous avoir toute notre vie cette ferveur pour les actes liturgiques. Puissiez-vous, mes frères, ne pas vous habituer à la réception des sacrements et aux cérémonies au point d'en oublier la grandeur et de les négliger dans votre cœur, les appliquant uniquement par habitude. Et puis notons aussi que si la seule foi ne suffit pas, c'est que la seule prédication ne suffit pas. Le prêtre est beaucoup plus qu'un prédicateur. Et à la limite, la grâce sacerdotale n'est pas strictement nécessaire à la connaissance de la Sainte Écriture et à la connaissance de la théologie. Le caractère sacerdotal est donné pour le sacré, pour la liturgie, pour les sacrements. Et voilà pourquoi le protestantisme qui prétend sauver par la seule foi ne peut pas avoir de sacerdoce. La mission du prêtre comporte certes la prédication, et c'est même très important parce que c'est par elle que les âmes sont préparées à la réception des sacrements et à leur participation dans la liturgie. Mais la mission du prêtre, même si elle comporte la prédication, s'achève dans la liturgie et dans les sacrements, ce qui est une même chose en fait. Ainsi donc, comprenons bien tout ce que l'Évangile nous dit dans ce récit. L'Église, corps du Christ, présent ici-bas, possède un vêtement qui est la liturgie, qui est les sacrements. Il faut s'y accéder par la foi, mais cette foi serait vaine s'il n'y avait pas le contact physique avec le Christ par les sacrements. Et c'est au prêtre d'assurer ce contact. C'est au prêtre d'être lui-même ce vêtement qui guérit les âmes. Et bien que la foi qui fit accéder cette femme à notre Seigneur, la foi qui est la pupille de l'œil de notre intelligence, nous fasse saisir l'immense réalité qui est présente sous les voiles de ces symboles liturgiques. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Excellence, Monsieur le Supérieur Général, Messieurs, et bien chers frères, voici ce que nous dit saint Paul ce soir. « J'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit le pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Ce que l'apôtre a reçu, il l'a transmis. Et ce qu'il a transmis a été transmis de nouveau jusqu'à nos jours. L'Église se réunit aujourd'hui pour commémorer cet événement. Le Christ a transmis à ses apôtres et paru à son Église. Et qu'a-t-il transmis? Ce geste et ces paroles. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Il a commandé à son Église de répéter ses paroles sur le pain. Ceci est mon corps. De répéter ses paroles sur le vin. Ceci est mon sang. En mémoire de lui. Et cette cérémonie mystérieuse, du Christ aux apôtres, des apôtres aux premiers évêques, de ces premiers évêques à leurs successeurs et aux prêtres et jusqu'à aujourd'hui, cette cérémonie s'est transmise. Elle s'est enrichie, elle s'est développée au cours des siècles et sur tous les continents. Immuable en son essence, elle est accomplie aujourd'hui selon les rites que les apôtres eux-mêmes et les premiers évêques, nos pères dans la foi, ont établis. C'est le legs, c'est l'héritage, c'est le testament de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de mourir, avant même de partir pour un grand voyage, il est de coutume, il est de règle de laisser à sa famille, de laisser à ses amis un héritage. Quelques biens, ou tout au moins quelques paroles, quelques leçons. Le Christ va partir, il le leur a dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Ce sont les derniers instants, c'est le dernier repas. qui se trouve être un repas sacré, le repas pascal. C'est le moment des adieux et des confidences suprêmes. C'est le magnifique discours que nous rapporte saint Jean et dont nous venons d'entendre un extrait. Mais notre Seigneur ne laisse pas seulement un discours, une parole, une doctrine. Il laisse un héritage, non pas un trésor, non pas seulement une doctrine ou une règle, mais un acte. Un acte symbolique constitué d'un geste, d'une parole et d'une chose. Et cet acte demeure dans l'Église. Et il est accompli quotidiennement depuis lors, et il est multiplié. Qu'est-ce que donc que cet acte ? Qu'est-ce donc que ce symbole ? Qu'est-ce donc que cette cérémonie que nous célébrons tous les jours, et spécialement ce soir, nous souvenons de cette institution première ? Cette cérémonie, ce symbole que nous appelons aujourd'hui la Sainte Eucharistie ou la Sainte Messe, c'est le testament de notre Seigneur, c'est son legs, c'est son héritage. Il représente, il symbolise toute l'œuvre de son fondateur, toute l'œuvre du Christ. Il représente tout ce que le Christ est venu accomplir. Cette cérémonie, ce symbole, est le centre même de la religion que le Christ a fondée, qu'il a fondée ainsi, peut-on dire, ce soir même. C'est par ce symbole, c'est par cette cérémonie que vivra cette religion. C'est dans cette cérémonie, c'est dans ce symbole que l'Église, que la société de ses disciples trouve la source de sa perfection. Essayons donc, ce soir, d'entrer dans ce mystère, car c'en est un. Essayons de pénétrer dans le sanctuaire, essayons de pénétrer dans le sein des saints de l'Église, dans le trésor que le Christ a laissé. L'Eucharistie, c'est le mystère même du Christ, et ce mystère est accompli par l'Église et dans l'Église. L'Eucharistie est le mystère même du Christ, en effet. Qui est notre Seigneur Jésus-Christ ? Jésus-Christ n'est pas un prophète. Jésus-Christ n'est pas un chef politique, ni un philosophe, ni seulement un maître ou un sage. Il n'est pas seulement un homme, ni même un homme favorisé des grâces de Dieu, mais il est Dieu. Dieu lui-même, Dieu incarné, Verbe incarné, seconde personne de la Trinité. Trinité. Il est l'homme-Dieu venu pour expier les péchés du monde par sa mort sur la croix. Et ainsi, par sa mort sur la croix, il va rendre la vie au monde, rendre la vie aux hommes. Par sa mort, qui est le centre de l'histoire, il rend à Dieu son Père la gloire qui doit monter de lui de la terre. Il répare le péché, il répare nos péchés personnels à chacun d'entre nous. Il offre la vie qu'il a reçue de Dieu. En sa sainte humanité, il expie les péchés du monde et mérite la glorification. Factus obediens, nous l'avons chanté. Factus obediens usquad mortem. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Propter quod et Deus exaltavitilum, et c'est pourquoi Dieu l'a exalté. L'humanité du Christ s'est chargée du péché et le répare, et ainsi elle mérite la gloire. Le Christ vient ainsi de la Trinité pour s'unir à une nature humaine, et il revient dans la gloire vers la Trinité en glorifiant cette nature humaine. Voilà le mystère du Christ. Voilà le mystère de l'homme-Dieu crucifié et glorifié. Mais tout ceci serait insuffisant. Tout ceci ne servirait à rien pour nous pauvres hommes pécheurs, damnés, si nous y restions extérieurs. La croix et la résurrection seraient sans doute la réparation et la glorification de l'humanité du Christ. La justice divine serait satisfaite et la gloire du Christ éclatante. Mais nous autres, nous n'en serions que les témoins et les spectateurs, toujours prisonniers du péché, toujours séparés de Dieu. C'est pourquoi le plan de Dieu ne s'arrête pas là. La miséricorde divine se penche sur nous du haut du ciel. Et ce mystère du Christ, cette mort et cette résurrection, cette réparation, cette expiation du péché, cette glorification de l'humanité, se produit non seulement dans le Christ lui-même, mais dans l'Église. L'Église est le peuple, la société que le Christ s'est acquis du haut de la croix, populus acquisitionis. Et ce que le Christ a accompli une fois pour toutes en mourant sur la croix, s'accomplit jusqu'à la fin du monde dans toute l'histoire, en tout pays, peuples, langues et nations, ex omni tribu et lingua et populis et nazione. L'Église est la société élue pour accomplir en elle-même et en tous ses membres ce que le Christ a accompli par sa mort sur la croix. L'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. L'Église vit en elle-même la passion et la mort du Christ. L'Église meurt avec le Christ et elle se sauve par la croix, et elle est glorifiée avec le Christ. Le chrétien, le baptisé, celui qui est membre de l'Église, et celui-là seulement, meurt avec le Christ, se sauve par le Christ, et est glorifié avec le Christ. Voilà pourquoi le mystère de la croix, le mystère de notre rédemption et de notre salut, doit être intimement présent dans l'Église. La mort du Christ en croix ne peut pas être pour l'Église, ne peut pas être pour nous un simple souvenir, un simple récit comme un mythe ou une légende, mais ce doit être une réalité. Cette mort est réelle, elle est réellement présente. L'immolation du Christ est présente dans l'Église. Cette immolation présente sous le voile des symboles, c'est la très sainte messe, c'est la très sainte Eucharistie. Voilà ce que le Christ lègue à son Église, ce jeudi saint. Un symbole, une cérémonie qui est réellement sa propre immolation. L'Église reçoit ce soir même, pridie quam pateritur, l'immolation du Christ Jésus. Son legs, son héritage, son testament, c'est lui-même. Lui-même dans le mystère de son immolation, rendu présente sous le voile des symboles liturgiques. Et ainsi donc, l'Église possède le mystère même du Christ, l'immolation même du Christ dans la très sainte Eucharistie, dans la très sainte messe. Sacrifice propitiatoire, même réalité que la croix. Mais il faut redire plus encore. Ce sacrifice, ce n'est pas un objet inerte, c'est une réalité vivante. Je veux dire que l'Église ne possède pas ce sacrifice de la croix par la très sainte messe seulement comme une cérémonie, comme un objet, comme un trésor. L'Église ne se contente pas d'assister au sacrifice du Christ, mais l'Église vit et accomplit ce que le Christ a vécu et accompli sur la croix. Dans la très sainte messe, l'Église s'unit et s'identifie au Christ. Et s'étant identifiée avec lui, l'Église s'immole avec le Christ. L'Église s'unit au Christ. La messe n'est pas seulement l'action du Christ présente dans l'Église, mais elle est aussi l'action du Christ et de l'Église, l'action du Christ avec l'Église, l'action de l'Église avec le Christ. Dans la messe, le corps mystique s'unit avec sa tête. Ceci est vrai, bien sûr, pour toute la liturgie, puisque la liturgie, c'est l'Église qui prie en union avec la tête, le Christ. Mais c'est vrai, bien sûr, plus spécialement de la très sainte messe, de toutes les cérémonies de la très sainte messe, qui signifie que le Christ et l'Église y accomplissent un seul et même acte, qu'ils sont intimement unis l'un à l'autre dans une même action sacrée. Et nous pouvons en noter deux points. L'offertoire, tout d'abord. L'offertoire est spécialement ordonné à cela. L'offertoire n'est pas une offrande naturelle du pain et du vin, dont on ne voit pas très bien quel serait l'intérêt. L'offertoire signifie l'union de l'Église au Christ pour constituer une seule victime. Ce n'est plus seulement le Christ qui est offert, mais c'est l'Église avec lui. Ce sont tous nos sacrifices, tous nos travaux, toutes nos œuvres, nos personnes même que nous présentons à l'offertoire. L'offrande du pain et du vin à l'offertoire représente et symbolise celle de l'Église. Oui, nos pénitences, nos épreuves, nos souffrances, nos échecs, nos réussites, toute notre vie en un mot, tout cela n'est pas inutile, nous savons que la souffrance n'est pas inutile. Nous savons qu'unis à la croix, tout cela est source de grâce et de rédemption. Eh bien, c'est par la messe que s'opère cette union à la croix. C'est la messe qui présente nos pauvres actions humaines en sacrifice d'agréable odeur. Certes, sans l'offertoire, la messe est valide, mais on pourrait dire qu'elle devient quasiment absurde. Car sans l'offertoire, l'Église est absente et nous sommes absents. Voilà pourquoi l'offertoire est partie intégrante de la messe et pourquoi l'assistance à la messe dominicale requiert, bien sûr, non seulement la consécration, mais aussi au moins l'offertoire. Parce que nous devons mettre notre goutte d'eau dans le calice de la Passion. Cette union du Christ et de l'Église a lieu aussi spécialement dans l'action du prêtre. Dans ce que fait tout ce que fait le prêtre. Parce que le prêtre a été marqué par l'Église d'un caractère qui en fait un instrument de Jésus-Christ. Lorsque le prêtre célèbre, lorsque le prêtre consacre, c'est le Christ qui agit par lui. La messe est à la fois l'acte du Christ et l'acte du prêtre. Et c'est pourquoi, lorsqu'il consacre le pain, lorsqu'a lieu la transsubstantiation, le prêtre ne dit pas « ceci est le corps du Christ », mais il dit « ceci est mon corps ». Ceci est mon corps, car lorsqu'il consacre, le prêtre est le Christ qui agit. Et ce qui vaut pour le prêtre vaut aussi, de façon inférieure bien sûr, mais cependant réelle, de tout le clergé et de tous les fidèles qui participent à la très sainte messe. Tous les chants, tous les gestes, tous les actes que vous accomplissez, mes bien chers frères, dans la très sainte messe, ce ne sont pas des actes de dévotion privée, ce ne sont pas des actes facultatifs, ce sont des actes que l'Église accomplit par vous. Vous offrez à l'Église, vous donnez à l'Église vos corps, vos voix, votre intelligence, votre volonté. La messe, c'est un acte du Christ et de l'Église qui s'accomplit premièrement par le prêtre, mais deuxièmement par le clergé et par tous les baptisés, par l'intermédiaire du prêtre. Non seulement les prêtres offrent, nous dit Innocent III, non seulement les prêtres offrent, mais aussi tous les fidèles, car ce qui s'accomplit d'une manière spéciale par le ministère des prêtres se fait d'une manière universelle par le vœu des fidèles. D'où la nécessité pour tous de connaître et de vivre le cérémonial, les chants et toute la liturgie. D'où la nécessité pour tous de connaître la liturgie, de la suivre. Et c'est pourquoi la messe par excellence, c'est la messe chantée, c'est la messe solennelle. Et c'est celle-ci qui doit avoir notre préférence. C'est que le Saint Sacrifice n'est pas seulement possédé par l'Église, mais il est vécu par elle. C'est son cœur, c'est sa vie, c'est la source de tout son être. C'est par lui, c'est par ce sacrifice de la messe que l'Église croit qu'elle se propage de manière invisible, mais réelle. Dans la messe et par la messe, l'Église devient une avec son époux. Et avec lui, elle sauve le monde. Ce qui veut dire qu'elle s'immole aussi avec le Christ. Le Christ est prêtre et victime sur la croix. À la messe, avec le Christ, l'Église aussi est prêtre et victime. Cum sit Christus, ecclesiae caput, dit saint Augustin, cum sit Christus, ecclesiae caput, et ecclesia corpus Christi, tam ipsa per ipsum, quam ipse per imsam debet offeri. Comme le Christ est la tête de l'Église, et l'Église le corps du Christ, c'est aussi bien l'Église que par le Christ, que le Christ par l'Église qui doit être offert. Nous nous unissons au Christ dans l'offertoire. Nous nous immolons avec lui dans la consécration. La mort du Christ, l'immolation du Christ qui est présente à cet instant, c'est aussi la nôtre. Voilà pourquoi nous supplions Dieu de l'agréer. La mort du Christ en croix a déjà été agréée par Dieu. Mais ce qui doit être agréé aujourd'hui, et ce pourquoi nous prions, c'est cette même immolation du Christ présentée par l'Église, en tant qu'elle est présentée par l'Église, et c'est l'immolation même de l'Église. Voilà pourquoi le prêtre dit « Supplices te rogamus ac petimus, uti accepta beas et benedicas, hec dona, hec munera, hec sancta sacrificia libata. » Nous vous demandons, supplions, que vous acceptiez, que vous bénissiez ces dons, ces présents et ces saints sacrifices sans tache. « Hancigitur oblationem servitutis nostre, sed et cunte familie tue. » cette offrande de notre esclavage, de notre servitude et de toute votre famille. Le Christ s'est acquis l'Église pour qu'elle s'immole avec lui sur la croix jusqu'à la fin du monde et qu'ainsi l'acte réparateur et rédempteur s'accomplisse en elle et en chacun de ses membres. Le chrétien, et plus spécialement le prêtre, et premièrement le prêtre, le chrétien par l'intermédiaire du prêtre, s'immole chaque jour à chaque instant, mais cette immolation
est incorporée à celle du Christ à la très sainte messe. Il ne s'agit pas pour nous seulement d'assister à la messe, mais il s'agit de la vivre. De la vivre en mourant mystiquement, en nous immolant mystiquement avec le Christ et avec l'Église. Le Christ est pour la croix. Le Verbe s'est incarné pour la croix. L'Église est pour la messe. Le Christ s'est acquis son épouse pour qu'elle accomplisse la croix par la très sainte messe. La messe est à l'Église ce que la croix est au Christ. C'est dans la messe et par la messe que l'Église agit avec son époux. La messe et la très sainte Eucharistie sont la source et le point culminant de tous les sacrements et de toute la liturgie. C'est le mystère même de notre salut, le mystère de la mission du Verbe, de son incarnation et de son acte rédempteur, qui est non seulement rappelé, non seulement commémoré, mais encore rendu présent et même vécu et accompli. Voilà l'héritage du Christ. L'héritage qu'il lègue à ses apôtres ce soir, son héritage, c'est lui-même. Lui-même dans le mystère de son incarnation rédemptrice. Voilà ce que le Christ laisse à son Église. Le mystère même de la croix, le mystère même de l'Église qui ne cesse de sortir du côté de son époux, dans une action humaine et divine, présente partout et toujours. Et cette action humano-divine, nous y sommes. Nous y sommes comme prêtres et victimes, avec le prêtre et la victime. Formant un seul corps avec le Christ, nous rendons à Dieu, per ipsum, et cum ipso, et in ipso, par lui le Christ, avec lui le Christ, et dans le Christ, omnis honor et gloria, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint Léon, s'adressant aux chrétiens de Rome à l'occasion du premier dimanche de Carême, s'exprimait ainsi. Il commençait par les paroles de l'apôtre Saint Paul et il disait « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. À la vérité, il n'est aucune époque qui ne soit pleine des bienfaits divins et toujours, à la miséricorde de Dieu, sa grâce elle-même nous prépare un accès. Mais maintenant, tous les cœurs doivent apporter le plus d'application à leur progrès spirituel et s'y exciter avec une plus large confiance, puisque nous sommes invités à tous nos devoirs de piété par le retour du jour dans notre rédemption. On devait en vérité à de si grands mystères une dévotion continuelle. Mais cette constance est le fait d'un petit nombre. La fragilité de la chair met du relâchement dans l'observance d'une austérité et à travers les occupations variées de la vie, où se détend notre attention, il est inévitable que les cœurs religieux se souillent de la poussière du monde. C'est à ce grand besoin de purification qu'a pourvu la divine institution d'un exercice de 40 jours, pendant lesquels nous renouvelons la pureté de nos âmes en rachetant par des œuvres pies les fautes des autres temps et en les consumant en des jeûnes faits en toute pureté d'intention. Il s'agit donc d'un temps de purification, pour racheter nos péchés passés, pour nous purifier de nos vices, de manière à retrouver une vie chrétienne intégrale et pure. Le carême est donc un temps fort de conversion, temps fort d'examen de conscience, d'examen de sa vie, temps fort de remise en question de sa vie, si elle n'est pas suffisamment chrétienne, temps d'intensité de la vie chrétienne. On le sait très bien, nous le savons, et il est inutile de le répéter. Et de fait, le carême vient chaque année. C'est un peu toujours la même chose. Chacun a ses défauts, chacun essaye de se corriger, on prend des résolutions, et l'un c'est sur la colère, un autre c'est sur la gourmandise, un troisième c'est la paresse, on prend des résolutions qu'on ne tient pas, qui ne sont jamais tenues. Et alors à quoi bon? À quoi bon recommencer chaque année ce carême qui bien souvent passe si facilement sans résultat? Pourquoi? Pourquoi le carême passe-t-il chaque année sans de bien grands résultats? Sans doute parce que nous sommes faibles et que le travail de notre sanctification est sans cesse à recommencer. Mais il y a une raison plus profonde. C'est que bien souvent nos résolutions sont des résolutions morales. Je veux dire des résolutions extérieures. On prend telle et telle résolution, de moins boire, de moins manger, de faire telle ou telle pénitence, sans doute. Des résolutions extérieures, et il manque le plus important. Le plus important, c'est la conversion intérieure. C'est que toutes les pratiques extérieures du carême correspondent à un changement véritable de l'intérieur de soi-même. Et pour cela, et pour comprendre les résolutions qu'il faut prendre, et pour comprendre ce qu'il faut changer, il faut être loyal avec soi-même, il faut être lucide. Et ce n'est pas au prédicateur de faire l'examen de conscience à la place des fidèles. C'est à chacun d'être lucide avec soi-même, d'être loyal avec soi-même, et de voir en lui quel est le vice fondamental. Chacun peut répondre à cette question. Ai-je véritablement le désir de me convertir à notre Seigneur Jésus-Christ, ou bien est-ce que je me contente simplement de suivre les prescriptions de l'Église sans trop de zèle et sans trop d'enthousiasme? Y a-t-il véritablement un désir de conversion? S'il n'y a pas véritablement de désir de conversion, alors à quoi bon prendre les résolutions? À quoi bon parler du carême? Et il n'est pas étonnant que le carême passe comme si rien n'était chaque année. Oui, il faut trouver en nous ce vice fondamental. Quel vice fondamental? On peut en trouver beaucoup, on peut se trouver beaucoup de défauts. Mais aujourd'hui, à toutes les époques, mais plus spécialement aujourd'hui, il y a quelque chose, un défaut fondamental, une racine qui est implantée en nous, qui est si commune, si étalée, qu'on n'y pense pas. Et oui, les choses que l'on voit tous les jours, précisément, on ne les voit pas, parce qu'on n'y fait plus attention. Ce que l'on voit tous les jours, on l'oublie. À force de le voir, on n'y pense plus. Alors c'est un défaut que nous avons tous, c'est un défaut qui est répandu aux yeux de tous, mais il est tellement répandu qu'on ne le voit pas. Ce défaut, il peut être appelé de différentes manières, nous l'appellerons l'esprit du monde. Voilà. La conversion, c'est de renoncer à l'esprit du monde pour retrouver l'esprit chrétien. Eh bien, si l'on ne renonce pas à l'esprit du monde, à l'esprit de ce monde, on peut bien prendre toutes les résolutions et toutes les pénitences, ça ne sert à rien. C'est un défaut qui est partout. Qu'est-ce que c'est que l'esprit du monde? L'esprit du monde, c'est de vivre comme le monde. C'est d'avoir le regard du monde, de regarder les événements, de regarder sa vie comme le monde. C'est d'estimer ce qu'estime le monde pour lequel notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas prié. L'esprit du monde, c'est de vivre avec les manières du monde, avec les manières de ceux qui n'ont pas de Dieu. C'est de vivre comme si Dieu n'existait pas. C'est de vivre comme si l'Église n'existait pas. C'est de vivre comme si la chrétienté n'existait pas. C'est pratiquer la religion, c'est assister à la messe du dimanche, c'est entendu, éventuellement à la messe en semaine, dire le chapelet de temps en temps. Mais en définitive, avoir au fond du cœur les mêmes maximes, les mêmes principes, les mêmes manières de vivre que tout le monde. Voilà. Alors comment cela se manifeste-t-il? Je crois que le plus simple, plutôt que de donner des doctrines, des expressions abstraites, le plus simple est de donner des exemples concrets. Et tous ces exemples concrets ne sont pas un défaut chacun, mais c'est le même défaut fondamental qui se retrouve partout. Exemple de la télévision. On croira que le danger de la télévision, ce sont éventuellement les mauvais films, les mauvaises images. Eh bien non. Oui, sans doute, bien sûr, la télévision est mauvaise pour cela, mais ce n'est pas le problème. Le problème, il est dans le fait que la télévision transmet par ses publicités, par ses chroniques, par ses reportages, un esprit matérialiste. La télévision transmet l'esprit du monde. Elle insuffle l'esprit du monde dans les familles. Et même s'il n'y a pas de film mauvais, même si l'on ferme la télévision lorsqu'il y a des choses mauvaises ou dangereuses, véritablement, eh bien c'est tout de même l'esprit matérialiste qui passe, qu'on le veuille ou non. Voilà. Alors cet esprit matérialiste, cette mentalité matérialiste, cette mentalité de confort et de jouissance, rentre dans la famille. Alors on peut bien tenir aux enfants tous les discours qu'on voudra, si la télévision dit le contraire, la télévision l'emportera. Autre exemple, la vie déréglée. Le monde aujourd'hui a une vie déréglée. Alors on vit de manière déréglée. Vie déréglée, je veux dire une vie sans ordre, qui n'a pas d'horaire. On se couche à n'importe quelle heure, et évidemment on se lève à n'importe quelle heure quand on en a la possibilité, ce qui fait que souvent le dimanche est un jour de sommeil, au lieu d'être le jour de Dieu. Puisque nous en sommes au dimanche, Parlons aussi de la profanation du dimanche. Oh, n'exagérons pas, je prends un terme théologique, profanation du dimanche, non pas pour dire qu'il y a des sacrilèges, mais pour dire simplement que le dimanche, qui est un jour sacré, est pris comme un jour profane, c'est-à-dire un jour naturel. Alors que le dimanche devrait être un jour de prière, de dévouement à Dieu, on s'y adonne parfois au travail manuel, soi-disant pour de bonnes raisons, en oubliant que le travail manuel n'est autorisé le dimanche que pour les tâches urgentes. Bien sûr, il y a bien la nourriture, il faut bien vivre, c'est évident, nous ne sommes pas comme les Juifs avec le sabbat, c'est clair. Mais néanmoins, il arrive souvent que l'on s'adonne le dimanche à des travaux manuels, sous prétexte qu'on ne gagne pas d'argent. Mais l'argent n'a rien à voir à faire, n'a rien à voir. Le repos du dimanche, l'absence de travail le dimanche regarde le travail manuel, que l'on gagne de l'argent avec ou qu'on n'en gagne pas. Cela n'a rien à voir. Le travail manuel, sauf cas d'urgence, est interdit le dimanche. Et puis le dimanche devient un jour de loisir. On comprend que la vie moderne oblige à se détendre de temps en temps. C'est bien normal. Et donc qu'il puisse y avoir des exceptions, c'est entendu. Mais que d'une manière générale, le dimanche soit consacré dans son ensemble au sport, au ski et au football, que ce soit comme spectateur ou comme acteur, cela est contraire à l'esprit chrétien. Alors on assiste à une messe en vitesse à 7h15 le matin ou à 7h le soir, et toute la journée, on s'adonne au dieu sport. Eh bien, c'est un scandale. Bon, je n'insisterai pas là-dessus, puisque si vous êtes ici, en principe, c'est que vous en êtes convaincu. Mais vous pourrez le transmettre. C'est que la messe du dimanche, par excellence, c'est la messe chantée, avec sermon. Et si l'Église a établi des messes le dimanche soir ou le dimanche très tôt dans la matinée, c'est pour permettre à ceux qui ont des empêchements légitimes de satisfaire à la messe dominicale. Mais ce n'est pas une chose normale. Il faut avoir des raisons. Il y en a, c'est vrai. Il faut avoir des raisons pour se priver de la messe chantée, que ce soit ici à Écône ou à Ride, peu importe, pour se priver de la messe chantée et la remplacer par une messe basse le matin ou le soir. Bien. Profanation du dimanche. Je pourrais donner d'autres exemples. Utilisation des cinémas. En soi, le cinéma n'est pas un péché. C'est même, on peut le dire, une œuvre d'art. Une œuvre d'art sans doute un peu secondaire, mais enfin tout de même, on peut admettre que ce soit une œuvre d'art, sans doute. Mais enfin, aujourd'hui, il est clair que la quasi-totalité des films comporte des scènes d'immoralité. Même si ce ne sont pas des films spécialement immoraux, il est clair que la production cinématographique actuelle fonctionne toujours avec des scènes immorales. Et même certains films qui sont prétendument des films dits de droite ou conservateurs, parce qu'ils sont soi-disant anticommunistes, eh bien ces films-là présentent aussi une atmosphère matérialiste et immorale. Nous le déplorons, mais c'est comme ça. Et comme on n'y peut rien changer, il n'est pas normal que des catholiques aillent assister à des séances de cinéma, sauf exception. Autre exemple. Eh bien, on va à la messe de minuit, c'est très bien. Et puis, après la messe de minuit, eh bien, on fait la fête jusqu'à 5 ou 6 heures du matin avec de la musique moderne. C'est vouloir concilier l'esprit du monde et l'esprit chrétien, ça n'est pas possible. Bon. Autre exemple, les observances que l'Église nous donne, en particulier pendant le carême. L'Église demande l'abstinence de viande le vendredi de carême sous peine de péché mortel. Et le reste de l'année, autrefois c'était obligatoire, maintenant c'est vivement conseillé, sans plus. Et de même, l'Église demande que pendant le temps du carême, il n'y ait pas de célébration solennelle de mariage, c'est ce qui est fait du point de vue liturgique, et en conséquence également qu'il n'y ait pas de fête publique, de grande fête publique. C'est un peu dommage pour ceux qui ont leur anniversaire pendant le carême, mais enfin, que voulez-vous ? L'Église demande d'être discret dans ses fêtes et demande de reporter soit la veille du carême, soit à la mi-carême, soit après le temps pascal, les fêtes et les choses qu'on pourrait avoir à célébrer. Bon. Autrement dit, l'Église nous donne une manière de vivre pendant le carême. Il n'est pas convenable, par exemple, d'assister à des banquets pendant le carême. Ça restreint un petit peu les relations publiques, tout cela. Oui, et il arrive souvent que des personnes s'accusent de ne pas avoir respecté le maigre du vendredi. Non pas par gourmandise, mais simplement par convenance. Voilà, on veut faire comme tout le monde. Eh bien, non. L'Église nous impose un style de vie, ne serait-ce que pour marquer que nous sommes chrétiens. Oh, il est clair qu'on peut toujours discuter pour savoir si manger du poisson est véritablement une pénitence. Le fait que ça nous embête, c'est une pénitence, même si en soi, ça n'est pas difficile à dire si le poisson ou la viande sont meilleurs l'un que l'autre. La question n'est pas là. C'est le simple fait de vivre différemment des autres. Oui. Eh bien, souvent, on se prive du maigre le vendredi, simplement par respect humain, parce qu'on veut faire comme tout le monde. Oui, le chrétien ne veut pas se distinguer. C'est encore une autre manière de vivre de l'esprit du monde. On pourrait ainsi multiplier les exemples, et vous les trouverez vous-même. Voyez-vous, ce que l'Église demande pendant ce temps de carême, c'est de voir vraiment comment il faut changer notre vie. Ce qu'il faut changer, non pas dans les détails, mais dans la mentalité. Nous avons une mentalité de réconciliation avec le monde. Et c'est pour cela qu'il y a eu la crise de l'Église. Et s'il y a actuellement un grand désordre dans l'Église, c'est parce que cet esprit d'alliance avec le monde est devenu doctrinal. De morale, il est devenu doctrinal. Les chrétiens ont pris l'habitude de vivre comme le monde. Ils ont fini par prendre l'habitude de penser comme le monde. Eh bien, mes bien chers frères, si vous êtes ici, c'est que vous ne voulez pas penser comme le monde, vous voulez penser comme l'Église l'enseigne, très bien, mais ça ne suffit pas. Si vous voulez plus tard que vos enfants pensent ce que vous pensez, qu'ils pratiquent la religion que vous pratiquez, il faut qu'en vous, ils voient l'exemple de ceux qui ne vivent pas comme le monde. Et c'est peut-être cela qu'il faut changer. Alors le rôle d'une prédication n'est pas de donner des détails de morale et des détails pratiques, j'en ai donné quelques-uns pour illustrer un peu, pour essayer de faire comprendre ce que je voulais. Je voudrais simplement vous inviter, pendant ce carême, à une conversion sincère, à un examen sincère de la manière dont nous vivons, et de voir si dans la manière dont nous vivons, dont nous mangeons, dont nous nous habillons, il n'y a pas une alliance avec le monde. C'est la grâce que nous devons demander les uns pour les autres. Vivre le carême, c'est vivre autrement que le monde, et c'est ce qui fait notre différence. Le carême n'est pas triste. C'est au contraire l'occasion pour nous de redevenir ce que nous sommes, de redevenir chrétiens, tout simplement. C'est la grâce que nous demandons à la très sainte Vierge, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.